Chers étudiants, mesdames et messieurs, on va reprendre nos débats. Le temps que Thomas arrive, j'ai pris sa place. Je donne tout de suite la parole à qui veut la prendre, finalement. On va faire simple. Qui veut pour commencer, Sylvain ?
Bien, merci, monsieur le président. Bon, merci à tous pour cet accueil, en particulier à toi, François. Donc, je vais traiter le sujet qui s'est affiché derrière moi, sport et neutralité. Donc, il faut être honnête, le choix du sujet ne part pas d'une démarche très, très scientifique. Un certain nombre de sujets avaient été pris. Je me suis demandé à quoi peut-on accoler l'adjectif neutre. Je réfléchis depuis un petit moment à un abonnement à Bein, mais je ne suis pas seul à décider. Donc tout ça a créé une ambiance. Et donc j'ai pensé à l'arbitre, au terrain, voilà, sport et neutralité, c'était parti. Et j'ai décidé de rester là-dessus. Et finalement, c'était pas plus mal, parce qu'effectivement, il y a, me semble-t-il, un certain nombre de choses assez intéressantes à dire sur ce sujet. Alors, il faut quand même apporter quelques précisions sur la perspective qui sera la mienne. Merci. Okay. Parce qu'effectivement, le terme de neutralité, l'adjectif neutre, est assez présent dans le discours sportif. Et il est en lien avec tout un tas d'autres notions qu'on trouve évoquées de façon plus ou moins précise, notamment les notions de sincérité ou de loyauté. La loyauté étant un principe du droit du sport qui est reconnu comme tel par le tribunal administratif du sport et qui interdit, par exemple, de faire des tacles à quelqu'un de façon sournoise et traîtresse, comme aime le faire Vincent Correa. Et donc c'est un terme qui revient assez souvent, et notamment vis-à-vis d'éléments qui peuvent perturber une compétition de l'extérieur. Donc notamment l'arbitre ou notamment le terrain, mais on se rapproche ici d'une acception qui est finalement assez proche de celles qui ont été abordées hier, à savoir notamment celle d'impartialité. Je n'ai pas retenu cet angle-là parce que il poussait simplement à s'intéresser à la multitude de dispositifs techniques propres à chaque discipline pour s'assurer de la loyauté d'une compétition, et puis par ailleurs parce que le terme de neutralité ou l'adjectif n'est pas là employé, me semble-t-il, avec une très grande cohérence par rapport aux idées de loyauté, de sincérité, d'équité d'une compétition. Donc j'ai pas retenu cet angle-là. Je n'ai pas retenu non plus la question de la neutralité au regard de l'événement sportif, et notamment la question de l'instrumentalisation éventuelle de l'événement sportif. On sait évidemment que le sport et les grands événements sportifs en particulier sont des vitrines pour ceux qui les organisent. Et que par conséquent, notamment un certain nombre d'États profitent de cette vitrine pour s'afficher, et notamment pour s'associer à des valeurs qui sont associées au sport, ou à des représentations qui sont associées au sport, la jeunesse, la force, le courage, et ainsi de suite. Alors, de cela, il y a évidemment de multiples exemples. L'exemple qui vient le premier en tête, c'est très souvent les Jeux Olympiques de 1936 en Allemagne, mais c'est vraiment qu'un exemple parmi... c'est quasiment une règle générale. En 1934, il y a aussi la Coupe du Monde de football en Italie. Dans les années 70-80, ce sont des pays plutôt d'Amérique du Sud, c'est le Mexique notamment, 68 pour les Jeux, 70 pour la Coupe du Monde, l'Argentine en 78, avec les questions que cela posait dans le contexte politique argentin de l'époque. Et puis si on s'en tient à la période plus récente, bon, qui organise les grands événements sportifs internationaux depuis le début des années 2000? Ben, c'est le Qatar, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est le Brésil. Bon, ben, c'est sans doute pas un hasard. Pas la peine d'aller chercher tous ces grands événements. Il est évident aussi que les autorités locales sont toujours très contentes de s'afficher dans le journal du coin en photo avec la gloire sportive du coin. C'est aussi une forme d'utilisation qui peut sembler contradictoire avec l'idée de neutralité. Donc je ne retiendrai pas cette question-là qui me semble un petit peu s'éloigner d'un questionnement juridique, même si par ailleurs elle peut être intéressante. Donc la conception que je retiendrai de la neutralité est une conception très classique pour ceux qui font du droit interne et en particulier du droit administratif ou constitutionnel. C'est la question des croyances et de leur libre manifestation. Avec différents volets, l'un que je ne retiendrai pas ou que je ne traiterai pas, qui est le volet expression des opinions politiques. La question se pose, on a là aussi tout un tas d'exemples de sportifs notamment qui profitent d'événements sportifs pour manifester des opinions ou sensibiliser à un certain nombre d'opinions politiques. C'est le point ganté de noir levé aux Jeux Olympiques de Mexico en 68. C'est beaucoup plus récemment, même si peut-être que vous ne l'avez pas vu, c'est cet athlète éthiopien qui finit second au marathon et qui fait un geste comme ça en croisant les bras et qui s'en explique en disant voilà, j'ai voulu sensibiliser l'opinion au sort de la minorité ethnique à laquelle j'appartiens dans mon pays, en Éthiopie, parce qu'elle subit tout un tas de restrictions de la part de l'État éthiopien. Donc moi je m'en tiendrai parce qu'il me semble, ça me semble plus intéressant et plus porteur, à la question de la libre manifestation des opinions religieuses, qui est une problématique qui me semble réelle. Je voudrais pas en exagérer l'importance, mais elle me semble quand même réelle. Elle l'a été, j'y reviendrai, notamment à partir du moment où un certain nombre d'instances sportives internationales se sont fait un peu plus souples sur la possibilité pour des athlètes de participer à des compétitions internationales en portant des signes religieux. Et puis c'est aussi une problématique, le cas échéant, au niveau local, et on retrouve toutes les questions, les termes habituellement utilisés, les termes de communautarisme, ce genre de choses. Le secrétaire général de l'Observatoire de la laïcité, d'ailleurs, a consacré en avril de cette année une intervention qui est disponible sur Internet, le 5 avril 2016, à la Fédération française de football, ce qui n'est pas un hasard, j'y reviendrai, sur le thème la laïcité et le sport. Donc il me semble qu'il y a une vraie question, et moi je l'interrogerai vraiment sur les acteurs de terrain. Donc c'est vraiment une problématique assez resserrée, elle est d'autant plus que la libre manifestation des croyances religieuses n'est qu'une partie de la liberté religieuse. Donc voilà quelle sera mon interrogation, je l'ai mis bien en grand pour que tout le monde voit. Voilà, au nom de quoi et jusqu'où, mais essentiellement au nom de quoi d'ailleurs, est-il possible de limiter la libre manifestation de leurs croyances religieuses par les acteurs du sport? Et effectivement, de ce point de vue, la neutralité est très souvent avancée par les responsables politiques, par les acteurs du monde sportif. La neutralité est très souvent invoquée pour justifier d'éventuelles contraintes quant à la libre expression des croyances religieuses dans le domaine des activités sportives. Alors, cette neutralité est évoquée sous deux angles qui seront les deux axes que je suivrai, à savoir la neutralité du service public, très classiquement, et puis la neutralité en tant que valeur du sport. Et je pense qu'on peut essayer de distinguer les deux, même si la distinction n'est pas nécessairement toujours faite de façon extrêmement rigoureuse par ceux qui évoquent ces deux neutralités, mais il me semble possible d'essayer de le faire, donc ça donnera quelque chose comme ça, neutralité du service public, neutralité en tant que valeur du sport. Alors j'ai mis conclusion une troisième voie, c'est un teasing un peu minable, vous verrez, il n'y a rien de très surprenant, au contraire. Vous verrez, j'en dis pas plus, je maintiens le suspense. Donc, d'abord, neutralité du service public. Effectivement, la neutralité du service public est souvent invoquée par les acteurs du sport, et de fait, on a ici un véritable principe juridique, donc une vraie densité juridique, c'est-à-dire la neutralité en lien ou découlant d'un principe constitutionnel qui est le principe de laïcité. Donc ce que nous dit le Conseil constitutionnel en février 2013, voilà, pour reprendre ses propos, le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, qu'il en résulte la neutralité de l'État. Bon, le Conseil constitutionnel n'est pas le premier à avoir lié les deux. Le Conseil d'État l'avait fait depuis assez longtemps déjà, notamment dans un avis de 1972. Enfin, l'important, c'est qu'on a affaire là à un principe, pour le coup, un principe juridique, alors sur lequel on peut avoir, ou sur les implications duquel on peut avoir des désaccords, mais sur la juridicité duquel on peut difficilement douter, qui implique des obligations juridiques, L'exemple le plus récent, c'est la loi sur la déontologie des fonctionnaires d'avril 2016, qui introduit un article 25 alinéa 2 dans le statut général, qui nous dit le fonctionnaire est tenu à l'obligation de neutralité. Donc là, c'est pas une valeur, c'est une obligation de neutralité. Alors, la spécificité du sport, s'il y en a une, c'est que, et c'est ce qui figure sur ce petit plan, c'est le fait que le sport est une activité qui parfois s'intègre dans un service public, et pour ne pas faire mystère, c'est le service public de l'éducation. Et puis parfois, on invoque la neutralité du service public, neutralité du service public du sport, le sport en tant que service public. Alors d'abord, est-ce que l'on peut utiliser ou fonder des restrictions à la libre manifestation des croyances religieuses en s'appuyant sur la neutralité du service public et précisément du service public de l'éducation ? Ici, je ferai simplement quelques rappels dans la mesure où, comme vous le savez, la loi du 15 mars 2004 qui encadre donc le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, a apporté une réponse assez globale à cette question, sur laquelle on peut quand même dire deux mots, qui avait émergé dans les années 80 autour de la question du port du voile au collège en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est la première réponse qu'avait donnée le Conseil d'État à cette problématique. Voilà, est-ce qu'on peut interdire, pour faire simple, le port du voile au titre de la neutralité du service public ? Et la réponse du Conseil d'État avait été, dans un avis célèbre de 89, tout en nuance et dans un certain classicisme, qui consistait à dire, non, en tant que tel, le port du signe n'est pas contraire à la laïcité, mais on peut y apporter un certain nombre de restrictions, si c'est proportionné, si c'est dans l'objectif de préserver l'ordre ou le bon fonctionnement du service public. Et de fait, les activités sportives, avec les activités de type technologique, en lien avec des machines ou des produits dangereux, avaient souvent été évoquées, notamment au titre de l'hygiène, comme peut-être susceptibles de donner lieu à des limitations de la possibilité de porter, en particulier, des signes religieux. Et puis c'est dans un second temps qu'on a mis un terme à ce que certains considéraient comme un embarras pour les chefs d'établissement, avec l'idée qu'on retrouvera par ailleurs que l'école, alors au sens large, collège, lycée, école primaire, serait comme ça une sorte de, ou devrait être une sorte de sanctuaire pour l'apprentissage du vivre ensemble, on en reparlera, associé à la vulnérabilité des enfants qui justifierait l'effacement de tout signe religieux. Donc ça, c'est pour les élèves, et puis pour les agents publics, c'est l'avis du Conseil d'État Marteau de 2000 qui interdit, au titre de la neutralité du service public, le port de tout signe religieux, ce qui concerne évidemment les profs de sport comme les autres. Donc en matière de service public de l'éducation, il reste qu'un questionnement, qui est celui de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'on peut invoquer la neutralité du service public pour limiter la libre manifestation des croyances religieuses dans l'enseignement supérieur ? Et par exemple, est-ce qu'une association sportive universitaire peut prévoir dans ses statuts des limitations du port de signes religieux ou des limitations à la libre manifestation des croyances religieuses en général ? Alors j'ai un petit exemple, j'essaie d'y arriver. Tac, c'est pas ça. Alors, par exemple, association sportive, je ne sais pas si vous arrivez à... Non, vous n'arrivez pas, donc je vais vous le dire. Association sportive Université Paul Sabatier, donc à Toulouse, qui nous dit, c'est ce que j'avais mis en surligné, « Tout signe religieux, politique d'appartenance à une organisation ou à un mouvement autre que sportif est interdit dans le cadre de l'activité physique et sportive au sein de l'association. » Autre exemple... Donc Fédération française du sport universitaire, voilà, on interdit tout signe distinctif et il est même précisé, paragraphe 3 ou alinéa 3, pour l'ensemble des sports, le port du foulard n'est pas autorisé. Est-ce qu'on peut s'appuyer ici sur le principe de neutralité du service public, en l'occurrence celui de l'éducation, pour prévoir ce type de disposition et le cas échéant sanctionner la personne qui ne le respecterait pas ou qui respecterait pas cet interdit? Bon, pour ma part, et je suis assez, assez convaincu de cela, en dehors d'une disposition législative, ça me semble improbable. Ça me semble improbable d'avoir des interdictions aussi, aussi générales. Autrement dit, à mon sens, on est plutôt dans un cadre qui devrait être celui défini par le Conseil d'État dans son avis de 89. Alors, peut-être qu'un jour, certains le proposent, des lois résoudront les questions, mais en l'état, ce n'est pas le cas. Donc ici, le principe de neutralité du service public me semble assez peu opératoire. Et puis, je vous le disais, les acteurs du mouvement sportif invoquent parfois le fait que le sport lui-même est une activité de service public, ce qui permettrait de lui appliquer toutes les conséquences liées au principe de neutralité. Alors effectivement, le sport est depuis maintenant longtemps, reçoit depuis maintenant assez longtemps la qualification d'activité d'intérêt général. Il y a des décisions du Conseil d'État depuis les années 60 sur ce point, mais on peut même citer une ordonnance de 1945 par laquelle l'État effectivement s'investit très lourdement dans la question des activités sportives. Et puis aujourd'hui, le Code du sport nous dit à l'article L100-1, la promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous sont d'intérêt général. Voilà, donc sont des activités effectivement d'intérêt général. Mais comme vous le savez, tout ce qui est intérêt général n'est pas nécessairement service public. Et par conséquent, s'il y a service public du sport, c'est forcément une définition un petit peu plus resserrée. Et dans le cadre du sport, on peut distinguer trois niveaux, me semble-t-il, très rapidement. Il y a d'abord le niveau des collectivités, des entreprises, des associations, qui effectivement contribuent par leur action, le cas échéant, à l'intérêt général associé à l'activité sportive, mais qui, a priori, activité qui, a priori, ne mérite pas, en tant que telle, le qualificatif de service public, sauf implication particulièrement importante d'une personne publique. Deuxième stade, ce qu'on appelle les fédérations agréées, fédérations sportives agréées, qui, de l'avis de la plupart des spécialistes de droit du sport, ne peuvent pas disposer de prérogatives de puissance publique. Alors très souvent, il est dit de ce fait qu'elles ne peuvent pas avoir de mission de service public. Alors, je ne suis peut-être pas assez connaisseur, mais j'essaye de lire les textes. Et je crois qu'au regard du Code du sport, les fédérations agréées peuvent se voir confier des missions de service public. L'article L131-9 du Code du sport nous dit « Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées qu'à condition de... » Bon, si le Code prévoit des conditions dans lesquelles elles peuvent déléguer une mission de service public, c'est qu'a priori, on peut la leur confier. Alors maintenant, qu'elles aient une mission de service public sans prérogative de puissance publique, c'est pas gênant. Les étudiants le savent, jurisprudence après, on peut avoir une mission de service public sans prérogative de puissance publique. A priori, c'est pas gênant. Bon, j'ai quelques doutes là-dessus, je suis pas absolument certain de mon coup, c'est pas très grave. Le troisième niveau, c'est celui des fédérations délégataires. Les fédérations délégataires, qui sont des associations loi 1901, ni plus ni moins, et qui se voient confier par la loi de véritables missions de service public avec prérogatives de puissance publique, jurisprudence FIFAS de 1974, et missions de service public qui consistent pour l'essentiel à organiser des compétitions nationales, régionales, départementales, et à procéder à des sélections d'athlètes à chacun de ces niveaux. Donc, quand est-ce qu'on peut invoquer, ou quand est-ce que les institutions sportives, donc au sens large de tous les acteurs du sport, peuvent invoquer la neutralité du service public du sport pour éventuellement justifier des restrictions à la manifestation des libertés religieuses? Ben finalement, il n'y a pas beaucoup d'hypothèses. Qui peut le faire? L'État, évidemment, ça il peut déjà le faire, c'est pas un souci, c'est évident. Et puis les fédérations délégataires, voilà. Mais en dehors de ça, ça me semble tout à fait impossible, notamment pour les associations de base, quand bien même, encore une fois, elles participent, ce faisant, à des activités d'intérêt général. Donc déjà, c'est une première restriction. Et puis ensuite, on peut se poser la question de savoir, vis-à-vis de qui, est-ce qu'on peut invoquer, ou par exemple les fédérations délégataires, peuvent invoquer la neutralité du service public du sport pour restreindre la libre manifestation des croyances religieuses. Les agents, oui. Leurs salariés, oui. Ils participent à une mission de service public. Voilà. Mais si on prend le cas des bénévoles, par exemple, les bénévoles des fédérations sportives, je pense en particulier aux arbitres, qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'il est possible, dans le statut d'une fédération délégataire, de prévoir des restrictions, notamment pour le port de signes religieux, vis-à-vis des bénévoles qui sont investis ? On pourrait être tenté ici de leur faire application de l'avis du Conseil d'État sur les accompagnatrices scolaires en disant, bon voilà, ce ne sont pas des professionnels, ils donnent un coup de main, mais c'est tout, il faut les regarder comme des usagers. Sauf qu'ici, on a affaire à des gens qui, d'une part, interviennent de façon extrêmement régulière et qui interviennent pas seulement pour permettre je ne sais quelle activité, qui sont au cœur de l'activité elle-même et dont l'intervention est indispensable. Ce qui fait qu'à mon sens, on pourrait plutôt, si on reste sur le raisonnement binaire ou la distinction binaire agent public ou agent usager du service public, il me semble que la balance, cette fois-ci, penche plutôt du côté d'une assimilation aux agents, sous toute réserve. Mais en tout cas, la solution me paraît assez incertaine. Et puis enfin, et surtout, les sportifs. Est-ce qu'une fédération délégataire peut invoquer la neutralité du service public du sport pour justifier des restrictions à la libre manifestation des croyances religieuses des sportifs ? À mon sens, non, dans la mesure où eux sont plutôt directement associés ou qualifiables, disons, d'usagers du service public. À mon avis, quand bien même serait-il professionnel, le seul élément de doute qui est le mien concerne un cas très particulier, qui est le cas de sportifs qui sont directement salariés des fédérations sportives. Ça n'est pas très fréquent, ça l'est un peu plus dans d'autres pays, notamment de l'hémisphère sud. Mais je pense à un cas, voilà, ceux qui regardent un peu le rugby verront peut-être, connaîtront ce cas-là. Je ne sais pas si vous connaissez Virimi Vakatawa. Virimi Vakatawa est un Fidjien qui, comme tous les Fidjiens, joue au rugby, et qui court vite, qui est très costaud. Et donc l'idée, quand il est arrivé en France pour jouer au rugby, il a été licencié d'un club qui est en l'occurrence le Racing Métro, où il a été, il a joué un petit peu. Et puis finalement, c'est la Fédération française de rugby, donc délégataire, qui directement l'a embauché. Donc c'est quelqu'un qui est salarié de la Fédération française de rugby pour jouer au rugby, et il joue dans l'équipe de France de rugby à 15, de rugby à 7. Ceux qui ont suivi les Jeux Olympiques l'auront peut-être vu. Et dans ce cas-là, il me semble que oui, s'il y avait lieu d'imposer des restrictions, il me semble que le principe de neutralité du service public serait possible, en tout cas, de l'évoquer et de l'utiliser. Mais c'est un cas tout à fait particulier. Donc si je fais une petite conclusion intermédiaire sur ce premier point, donc la neutralité du service public, ben, il me semble que la neutralité du service public classiquement entendue est assez peu opératoire ici pour porter des restrictions à la liberté religieuse. Alors ce qui est de plus en plus invoqué, c'est la neutralité en tant que valeur du sport. Ce qui est de plus en plus évoqué, notamment depuis que des instances internationales, je vous le disais, ont été de plus en plus permissives vis-à-vis du port de signes religieux dans les compétitions internationales. Ça a été le cas aux Jeux Olympiques. Donc c'est une image, l'image de départ. Voilà, c'était un match de beach volley aux Jeux Olympiques de Rio, donc avec une athlète égyptienne et une athlète allemande en l'occurrence. La Fédération internationale de football a elle aussi permis le port de signes religieux qu'elle appelle couvre-chef. Et d'ailleurs, elle l'a permis en disant que ça n'était pas des signes religieux, mais des signes culturels. Voilà, toute ressemblance avec une jurisprudence bien connue de la Cour européenne est peut-être fortuite, je ne sais pas. En tout cas, cela a interrogé l'attitude des fédérations nationales, et de fait, les responsables ont beaucoup évoqué les valeurs du sport pour justifier d'éventuelles restrictions, notamment certains responsables sportifs comme Frédéric Thiriez ou d'autres responsables, évoquant aussi la charte olympique et lui faisant dire ce qu'ils ont un peu envie qu'elle dise. Donc la neutralité ici déborde en quelque sorte son lit juridique pour aller sur le terrain des valeurs. Voilà, on peut penser évidemment à Babylou, à ce genre de cas de figure où derrière ces valeurs du sport se profile un concept. Vous voyez peut-être venir citons Manuel Valls, on y gagne toujours, qui nous dit, alors du coup j'ai pas eu le temps de citer la première partie, donc c'est dommage, mais c'est la fin, voilà, vous essayez de trouver le dernier mot, et puis j'offre un programme dédicacé par un des agrégés 2014 de votre choix. C'est ainsi, donc en étant fidèle aux valeurs du sport, qu'il, donc le sport, restera un vecteur incontournable d'éducation à la citoyenneté et d'apprentissage du... vivre ensemble, c'est dommage, c'est un peu gâché du coup. Donc, évocation du vivre ensemble, voilà, le sport, école de la vie, éducation, valeurs, etc. Donc après tout un tas de discours parfois un peu naïfs. Mais voilà. Et ce qui me semble intéressant, c'est que l'invocation de ces valeurs du sport, des spécificités de l'identité du sport, consiste à tenter de faire ratifier par le droit une forme de fragmentation des espaces. Il y a eu celui de l'école, celui du sport, celui de l'entreprise avec Babylou, qui est nécessairement favorable aux restrictions. C'est-à-dire que plus la focale est précise et proche, plus on perçoit des différences, plus chacun revendique une identité, une singularité, qui justifie en retour une sorte d'arasement des différences entre les personnes. Et donc c'est un peu ce paradoxe de voir le vivre ensemble finalement reposer sur une fragmentation des espaces. Alors, peut-on valablement invoquer la neutralité comme valeur du sport pour fonder des restrictions à la libre manifestation des croyances religieuses? Pour ma part, je n'y suis pas favorable. Je ne pense pas que la neutralité puisse être une valeur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas parce que c'est un objet juridique que ça peut pas être autre chose. Le droit n'a pas le monopole de la neutralité. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Simplement, je crois qu'il faut essayer d'éviter un peu le mélange des genres. Alors, on disait hier que les questions de valeur étaient toujours sous-jacentes à quelques systèmes juridiques que ce soit. Très bien. À mon sens, qu'elles restent sous-jacentes. Elle reste sous-jacente et ça sera très bien. Donc ça me semble assez fragile. Et pour conclure en deux mots, puisqu'il y avait, voilà, quand même pas vous frustrer de mon teasing, une troisième voie. La troisième voie, c'est tout bêtement et très classiquement finalement la position du Conseil d'État de 89, c'est-à-dire l'idée du bon fonctionnement d'une institution. On peut toujours poser des restrictions à une liberté au nom du bon fonctionnement d'une institution. Simplement, on ne le fait qu'au coup par coup, et qu'en tant que c'est strictement nécessaire et proportionné, sous le contrôle du juge, ce qui est habituellement le cas, par exemple, dans le cadre de l'entreprise. Et dans ce contexte-là, pourquoi pas, ça me semble un fondement possible, général, à toutes les institutions sportives, vis-à-vis de tous les acteurs du sport, mais évidemment cantonné dans une perspective de proportionnalité, dans une perspective plutôt libérale, je crois. Merci.
Merci beaucoup Sylvain. Finalement, l'absence d'Arnaud C est tout à fait compensée par ton intervention. C'est parfait.